Le débat du jour.
François Bernard.
Bonsoir et bienvenue à l'écoute du débat sur RFI. Toute cette semaine, Radio France Internationale s'intéresse au premier de ceux qu'on a appelés les messieurs Afrique, Jacques Focard. Conseiller du général de Gaulle pour les affaires africaines, intermédiaire privilégié et influent entre les chefs d'État africains et le président français, Jacques Focard a été l'instrument d'une action, d'une méthode qui ont marqué les relations franco-africaines pendant deux décennies. Quel héritage a-t-il laissé? Que reste-t-il de la politique france-africaine qu'il a initiée? Jacques Focard a-t-il marabouté la politique africaine de la France? On en parle avec nos deux invités. Je vous les présente tout de suite. Antoine Glaser est journaliste, écrivain, spécialiste de l'Afrique et auteur d'un récent Africa-France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu. C'est aux éditions Fayard. Bonsoir Antoine Glaser.
Bonsoir.
Et puis Vincent Hugeux, journaliste également, spécialiste vous aussi des questions africaines, auteur en 2014 de Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames, c'est aux éditions Perrin. Bonsoir Vincent Hugeux.
Bonsoir.
Alors un mot d'explication peut-être du titre de notre débat suggéré par un confrère du service Afrique de RFI. Jacques Focard a-t-il marabouté les relations franco-africaines? Alors nos auditeurs africains le savent, les autres peut-être pas. Marabouter, c'est jeter un sort, une malédiction. Est-ce qu'il avait un côté sorcier, Jacques Focard? Antoine Glaser.
Oui, absolument. Dans le sens où il a d'autant plus marabouté la politique africaine de la France, qu'il faut pas oublier que cette période historique était la période de la guerre froide. Il faut pas oublier que Jacques Focard a d'abord installé les réseaux de la résistance et l'ensemble des services secrets français en Afrique pour libérer la France. En fait, il y avait De Gaulle à Londres et en même temps Jacques Focard avec les réseaux africains. Et c'est vrai qu'il a marabouté la politique africaine de la France dans le sens où, d'une façon d'ailleurs qui est plutôt négative par rapport aux Africains, et il n'y avait pas de contre-pouvoir. Et il était vraiment, il a eu cette fameuse phrase, mais qui résume bien en fait cette politique qui était « ce qui est bon pour la France est bon pour l'Afrique », ce qui est absolument énorme. Ça veut dire qu'on était dans une période où finalement il y avait vraiment une volonté comme ça de la France, une sorte d'assimilation, de créer une communauté franco-africaine, et ce qui lui importait, c'était vraiment le patriotisme français en Afrique, et on tenait absolument pas compte de ce qu'était l'Afrique, son histoire et autres. C'était une projection de la France en Afrique, c'était la grande France, dans un espace hyper protégé et bien évidemment avec un système intégré politique, militaire, financier, avec le franc CFA, et donc ce système intégré, et lui était le réseau des réseaux. Ça veut dire il avait en même temps les réseaux d'État et puis il avait les réseaux privés qui étaient les barbouzes, et les barbouzes, un certain nombre d'entre eux cooptés dans les milieux anticommunistes, ça veut dire d'Action française et autres, et donc c'était vraiment le réseau des réseaux, à tel point que, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais quand il n'était pas à l'Élysée ou pas en train de s'occuper, même le général de Gaulle ne savait pas quoi faire en Afrique.
Mmh. Comment on pourrait alors caractériser? Vous vouliez peut-être...
Oui, mais à propos justement du lexique marabouté, oui. Au fond, le marabout peut être virtuellement porteur aussi de bienfaits, pas seulement de malédictions. Mais en l'occurrence, l'acception plus négative s'impose. Marabouté, en tout cas, façonné et durablement dévoyé, sinon perverti, en même temps, gardons-nous de pas tomber dans le traquenard de l'anachronisme normatif. Car à l'époque, comme Antoine le soulignait à l'instant, c'est vrai qu'il est au service du grand homme, Charles de Gaulle, et au service de l'État français, avec cette lecture univoque qui vient d'être évoquée.
Comment on pourrait alors caractériser l'action qu'a menée Jacques Focard et les méthodes qu'il a utilisées?
Moi, je dirais qu'il avait vocation à organiser la dépendance postcoloniale des États africains formellement indépendants. Au fond, qu'est-ce qui se passe à l'approche de 62? De Gaulle comprend que l'indépendance énergétique garantie par le pétrole saharien est en train de se déliter. En gros, la dépendance française vis-à-vis des hydrocarbures venus d'Algérie n'est pas soluble dans l'eau des accords d'Évian. Donc, il faut s'assurer, pour l'essor économique de la France des années 60, des approvisionnements réguliers. Et pour cela, il y a un facteur absolument cardinal, c'est la stabilité. On veut des régimes stables. On veut que tout soit lisible, déchiffrable, prévisible. On ne veut pas d'aventure. D'où aussi le travail de sape qu'un Focard et ses disciples effectueront pour, par exemple, discréditer des opposants, voire les neutraliser ou les anéantir, y compris physiquement. Donc je crois que c'est vraiment le travail de Focard, c'est d'organiser la perpétuation d'une forme de dépendance, notamment économique.
D'accord. L'homme, Antoine Glaser, était réellement influent ou est-ce qu'il était simplement la voix de son maître, on va dire ?
Je pense qu'il y a deux périodes. Il y a la période de Focard, le monsieur Afrique du général de Gaulle, pendant une certaine période, disons, jusqu'aux années, 80, je veux dire, la période dure de la guerre froide. Et en même temps, je pense, quelque part, c'est pour ça que c'était aussi un marabout, il est devenu l'homme des Africains. Parce qu'à la disparition du général de Gaulle, finalement, Poher, quand il arrive finalement au Sénat, quand il y a la période de transition, et quand Pompidou arrive au pouvoir, c'est Focard lui-même qui raconte dans ses mémoires. Georges Pompidou lui dit mais Jacques, j'en ai marre, il y a tous tes présidents africains qui m'appellent constamment demandant si tu vas rester à côté de moi, si tu vas rester. Bien sûr, mais il s'agace Pompidou, il dit mais tu n'es pas éternel. Ça veut dire on comprend bien comment quelque part finalement il est devenu l'homme des présidents africains qu'il a lui-même coopté. Et les réseaux d'influence, à mon avis, ce sont à un moment donné, ça devenait extrêmement compliqué de savoir les intérêts de la France en Afrique et les intérêts des Africains aussi en France pour préserver finalement leur maintien au pouvoir et avec l'ensemble des nomenclaturas qui bénéficiaient de toute la manne, que ce soit pétrolière, le cacao et autres. C'est vrai qu'il était, Focard était quelque part le Rome à Paris et c'est pour ça que c'est absolument incroyable de voir que même quand il y a eu avec Giscard d'Estaing des hommes comme René Journiac ou Martin Kirsch qui était un magistrat, c'était des hommes de Focard. Mmh. Ça veut dire il était devenu irremplaçable, mais c'est pas lui, c'est vraiment les chefs d'État africains. On est complètement dans l'oralité, ça veut dire rien n'est écrit. Moi, les mémoires nous apprennent énormément de choses sur la cooptation des hommes et les relations qu'il avait, comment il cloisonnait avec les uns et les autres. Malheureusement, les chefs d'État africains, eux, ils n'écrivaient pas, mais ils ont quand même, comme Omar Bongo, à un moment donné, changer les ministres de la coopération ici, et il participait complètement à la vie politique en France, et donc faut pas croire que c'est toujours France-Afrique, c'est pour ça d'ailleurs j'écris Afrique à France. Mmh. Je pense que les chefs d'État africains ne parlaient pas, mais je pense qu'avec Focard, ils obtenaient à Paris beaucoup plus que ce qu'ils auraient dû obtenir sans contre-pouvoir.
Vincent Hugeux.
Même s'il est vrai que dans la deuxième séquence historique mentionnée à l'instant, on peut considérer que Focard incarne aussi une forme d'archétype, archaïsme, ne serait-ce que dans les méthodes, il n'est que de constater à quel point, à son chevet, ses disciples présomptifs se sont battus pour l'héritage. Ça n'avait rien à envier à la bagarre entre Alassane Ouattara et Henri Conan Bédier au chevet d'un Félix Houphouët-Boigny vieillissant. Mmh. Il y a eu une guerre de tranchées pour savoir qui allait remporter, en quelque sorte, le legs et donc l'influence d'un Focard. Donc il a quand même façonné aussi une génération d'intrigants de la France-Afrique. Mais ce qui est assez frappant également, c'est que dans la trajectoire du personnage, il y a des composants qui sont évidemment consubstantiels à ce que sera sa stratégie. C'est quelqu'un qui, à un moment donné, se lance dans l'exploitation forestière. Donc il est d'ailleurs en partie guadeloupéen par sa mère. Et il a une culture de l'échange, une culture de l'import-export. Il a une culture du bienfait que vous procure la détention d'une matière première vitale. Et puis il y a l'autre aspect, alors culturel, qui est celui effectivement de la résistance, et on retrouve cette culture d'ailleurs, parce que la résistance, certes, mais aussi, ne l'oublions pas, le SDEC, mais aussi l'UNI, ce fameux syndicat étudiant d'extrême droite qui va jaillir après la chienlit de 68. Donc, culture de la résistance, culture des réseaux, c'est aussi, on cloisonne, on maîtrise, on tire les ficelles et aussi on centralise, on est le patron. Et il y a quand même une période où beaucoup de ce qui se jouait entre l'ex-précaré français et Paris passait par un téléphone d'ébonite dans la Villa Charlotte de Luzerche. Il y avait deux lieux que tous les Africains connaissaient. Il y avait l'appartement de la rue de Prony dans le 17e et il y avait surtout cette fameuse Villa Charlotte.
Donc vous l'avez dit tout à l'heure, Antoine Glaser, c'était intéressant, le contexte de décolonisation à l'époque explique cette politique, même si elle ne l'a justifie pas. L'Afrique francophone dans les années 60-70, c'est encore un petit peu la France hein, pour les autorités françaises. Vous l'avez dit. Est-ce que, après le départ de Jacques Focard, la relation franco-africaine change ?
Oui, enfin, elle a changé même avant. Pour moi, le vrai tournant, c'est la dévaluation du franc CFA. C'est l'arrivée de... C'est en 93 avec, en fait, Édouard Balladur. C'est vraiment avec la cohabitation en France. C'est là où ça a changé. Encore tout à l'heure, je parlais d'un système intégré, politique, militaire. Et bien évidemment que le côté financier avec un franc CFA qui était à parité avec le franc français, c'est vrai que c'était extrêmement important pour l'ensemble du business français. L'ensemble, maintenant les alliés ou les partenaires de la France sont devenus ses concurrents, considéraient que effectivement la France était le gendarme de l'Afrique et il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait aucun appel d'offres. Je veux dire, pour avoir les contrats à cette époque, les patrons français, ça se passait par un coup de fil à l'ambassadeur de France qui appelait le président africain. Donc c'était vraiment ça qui a duré toute sa période. Alors il y a eu 60. Là, on parle de la période 60-1990, la chute du mur de Berlin. Mais en fait, la réalité, c'est pas vraiment la chute du mur de Berlin. Parce que si on dit que la chute du mur de Berlin, ça voudrait dire que on va plutôt dans le sens de François Mitterrand avec la Baule, avec la démocratie à votre rythme, etc. Mais en fait, c'est pas vraiment ça. C'est les relations financières. C'est quand la France passe l'ensemble de son précaré et l'ensemble de ses pays, ses 13 pays d'Afrique francophone, ses anciennes colonies, qu'elle les passe à la Banque mondiale et au FMI. Et là, il y a eu les prêts d'ajustement structurel pendant très longtemps. Elle était en tête à tête avec une relation bilatérale sur tous les plans. C'est la France qui faisait les fins de mois. En même temps, elle retirait les matières premières. Il y avait les accords des clauses secrètes en disant aux chefs d'État, on vous maintient au pouvoir, mais vous nous donnez en priorité les matières premières stratégiques, en particulier le pétrole. Comme dit Vincent, l'a dit, après que la France soit fait virer de l'Algérie, il fallait retrouver du pétrole. Ça a été le Gabon, le Congo, dans le golfe de Guinée, et puis il y avait l'uranium du Niger. On ne dit pas suffisamment que Areva, même si maintenant ça va mal avec le gisement d'uranium à Imouraren au Niger, compte tenu des prix, mais le gisement d'uranium du Niger, ça va dans, c'est pour la bombe nucléaire française. C'est de nucléaire stratégique pour l'armée française. Donc il y a ce système intégré vraiment aussi militaire. Ça veut dire, quand on parle de précaré, ça signifie quelque chose.
À ce propos, moi j'entends encore cet ancien ministre de l'énergie nigérien qui me jure croix de bois, croix de fer, qu'il ignorait le montant, les quantités de minerais d'uranium qui sortaient des entrailles de son pays. Oui. À l'époque, Kojima, donc en quelque sorte ancêtre d'Areva. Au fond, Focard disposait de trois armes essentielles. Bien sûr, l'instrument diplomatique classique, les services... Là encore, hein, retour à cette culture qu'on évoquait ensemble tout à l'heure. Et puis Elf, il y a un personnage qui s'appelle Pierre Guillaumin, qui, dans cette période, joue un rôle, et d'ailleurs on le verra encore avec Albin Chalandon plus tard, un rôle qui est sans doute plus impérieux encore que celui d'un ministre des Affaires étrangères. Quoi. Donc, il est aussi choisi, d'ailleurs, à raison de cette aptitude et de sa proximité avec le pouvoir.
Comment il était vécu? C'est une question que je me suis posée. Comment il était vécu par ses interlocuteurs, les chefs d'État africains? Comme un allié, comme un protagoniste incontournable?
L'impression que j'ai, en tout cas, à entendre à posteriori des témoignages de ceux qui l'ont pu le pratiquer côté africain, c'est que, quelles que soient les suspicions qu'il pouvait inspirer à certains, il était l'homme dont on avait besoin pour avoir accès à. Mmh. Et d'ailleurs, au passage, quand on séquence, comme on l'a fait, effectivement, les phases d'influence, je pense que il y a quelque chose de parfois un peu plus complexe, au sens où il y a aussi des phases de régression. Au fond, l'époque Mitterrand, qui aurait dû être l'époque d'une fracture idéologique, doctrinale, et dans la pratique, c'est aussi l'époque d'un simulacre. Mmh. Parce qu'il y a la Baule et il y a Papa Madi, Jean-Christophe. Bon, l'époque Chirac est d'une certaine façon une époque de régression. On revient à une ultra-personnalisation des rapports. Combien d'ambassadeurs m'ont dit à cette époque... entre lassitude et exaspération. Oh, de toute façon, dès que ça touche un dossier sensible, le message qui me vient de ma hiérarchie à Paris, c'est « tu ne t'occupes de rien, de toute façon, le président, alors vous ajoutez le nom que vous voulez, hein, Bongo, Sassou, etc., oui, appelle Chirac demain. » Bon, donc ça, et Sarkozy, alors là, on est dans la phase de l'antiphrase, où il y a une promesse évidemment trahie de la fameuse rupture, vous vous souvenez de 2007.
Alors, qui serait aujourd'hui Antoine Glaser, ce monsieur Afrique, ce personnage-là, auprès de François Hollande?
Il ne peut pas exister. Il ne peut pas exister parce qu'encore une fois, la force de Focard, en dehors de ses talents et de ses relations avec ses chefs d'État africains, c'était une période historique donnée. On oublie que c'était une période historique où il n'y a eu pas de concurrence du tout pour la France dans toute une partie de ce continent africain. Il ne faut pas oublier aussi que en même temps, les chefs d'État qui étaient au pouvoir, c'était des gens comme le président Félix Houphouët-Boigny, qui avait été lui-même ministre dans des gouvernements français, comme Léopold Sédar Senghor, donc qui ont vraiment cru à une communauté de destin, comme on dit, entre la France et l'Afrique. C'était un système intégré. Il fallait pas simplement aux yeux de Focard, il fallait pas simplement être francophone, il fallait être francophile, il fallait vraiment défendre les intérêts de la France, d'où la longévité d'un Omar Bongo qui avait bien compris, et lui qui espérait être vraiment plutôt l'honorable correspondant de la France en Afrique, et qui alors qu'il y a pas, quand on pense qu'il est mort ensuite à Barcelone, on voit bien déjà que la période était déjà terminée, donc il peut pas y avoir de Jacques Focard au sens où quelqu'un qui est vraiment le réseau des réseaux. Il avait en même temps tous les secteurs privés aussi qu'il gérait, en même temps qu'il y avait le réseau d'État, les réseaux privés avec les lobbies. Donc on est dans une période historique donnée, alors qu'il y a maintenant, il y a eu ce qu'on appelle des bouts de réseau, des bouts comme ça. Ça veut dire que les chefs d'État africains, intelligemment, ils sont en train de reprendre maintenant tous les généraux français, un certain nombre d'avocats, un certain nombre aussi de personnalités françaises qui sont passées dans le privé, des hauts fonctionnaires français, des diplomates à leur service. Mmh. Ce qui intéresse les présidents africains, c'est d'avoir de l'influence à Paris. Mmh. Mais en même temps, ils sont de plus en plus mondialisés, ils ont le monde entier, donc ils jouent encore avec ça, ils jouent encore avec des réseaux français, compte tenu qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses, comme chacun sait en France. Mais pour le reste, très franchement, on est vraiment dans une période nouvelle. Ça sera un anachronisme historique de penser qu'il y a encore un Jacques Focard.
Vincent Hugues.
Oui, tâchons d'éviter quand même le manichéisme historique. Au fond, quand Jacques Focard rencontre pour la première fois Félix Houphouët-Boigny, à ma connaissance c'est en 1953, lors d'une tournée de Gaulle, il rencontre quelqu'un qui est aussi et surtout un ministre de la République et un élu de l'hémicycle des bords de Seine. Et n'oublions pas que pour certains des acteurs de ce que sera l'indépendance formelle des années 60, la liberté, l'indépendance, la souveraineté, c'est certes un élan, mais c'est aussi un vertige. Mmh. Ces gens-là ont parfaitement conscience qu'ils ne peuvent pas tenir debout en termes de structure administrative s'il n'y a pas, d'une manière ou d'une autre, la continuation d'un rapport privilégié. D'où, d'ailleurs, la naissance de ce néologisme France-Afrique qui, dans l'esprit d'un Félix Houphouët-Boigny, n'a rien de péjoratif.
Et est-ce que ce monsieur France-Afrique aujourd'hui, ou monsieur Afrique aujourd'hui, pourrait pas être le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian?
Je ne le crois pas parce que, à l'évidence, il ne peut pas couvrir tout le spectre, ce que faisait évidemment un Focard.
Mais la donne a changé.
Cela dit, la question est d'autant plus pertinente que, effectivement, ce qui a, d'une certaine manière, réévalué le magistère français en Afrique et notamment dans la zone saharo-sahélienne, c'est l'impératif de sécurité dont la France, il faut le dire, est seule porteuse aujourd'hui et à son grand dépit d'ailleurs, puisque nos partenaires européens feignent de croire qu'on se contente de régler des arriérés postcoloniaux. Alors que les enjeux de sécurité, évidemment, vont très au-delà de l'hexagone et de sa destinée.
En quelques mots, Antoine Glaser, pour conclure, la lutte contre le terrorisme en Afrique a changé la donne.
Oui, mais en même temps, très franchement, l'armée sert quelque part, la présence de l'armée française sert de cache-misère à une présence globale en déshérence. Si maintenant, à chaque fois que vous avez un sommet sur la sécurité en France, à Paris, vous avez avant ou après un forum économique, ça veut dire que vous voyez bien qu'il y a aussi une volonté en disant, ok, aux partenaires de la France, on assure la sécurité, mais au fond, faut quand même qu'il y ait des retombées économiques pour la France. Et pour l'instant, on voit surtout les partenaires français, que ça soit européen, oui, surtout européen, ils disent, ils ne mouvent pas. Vous entendez-vous David Cameron sur le Nigeria, sur Boko Haram? Ils ne mouvent pas, ils laissent la France assurer la sécurité. Pendant ce temps, ils font le business.
Bon, de Focard, on en parle beaucoup sur RFI, je vous disais, le thème est largement traité. Toutes les émissions concernant d'ailleurs Jacques Focard et ses archives, ses réseaux sont disponibles sur notre site, y compris la conversation de ce soir, mais également les deux grands reportages signés Laurent Corot sur Jacques Focard et ses réseaux. On n'en dira pas plus. C'est dommage, mais c'est l'heure. Merci à tous les deux. Vincent Hugues, journaliste spécialiste des questions africaines et auteur de Reine d'Afrique, le roman vrai des Premières Dames. C'est aux éditions Perrin. Et Antoine Glaser, journaliste écrivain, spécialiste de l'Afrique également et auteur d'Africa France, quand les dirigeants africains deviennent les maîtres du jeu, aux éditions Fayard. Merci, bonsoir à tous. À demain.
Merci.